Chapitre 10. Les sociétés en guerre, des civils acteurs et victimes de la guerre. Cours 3. La mobilisation des esprits. Comment s'effectue la mobilisation idéologique et psychologique pendant la Première Guerre mondiale? A. Entretenir le moral. 1. Censure et propagande d'État. Dans le contexte de guerre d'usure, les autorités cherchent à maintenir le moral des troupes et de l'arrière. Pour rassurer et faire tenir les populations, l'information est contrôlée. De fausses nouvelles sont diffusées par la presse ou par des brochures officielles. Une partie du courrier est contrôlée pour éviter que d'inquiétantes nouvelles ne parviennent aux familles. Le théâtre, la chanson sont également surveillés et censurés. La propagande devient une activité centrale de la guerre. 2. Un contrôle politique et social accru. L'encadrement des esprits devient la règle. La société est sous surveillance. La consommation d'alcool à l'arrière est limitée. À la plus grande visibilité des femmes répondent la suspicion et la volonté de retour à l'ordre moral. La prostitution est sévèrement réprimée en Grande-Bretagne et en Allemagne. La vie démocratique est mise entre parenthèses et l'exercice du vote, quand il existe, est reporté. Les femmes britanniques de plus de 30 ans obtiennent le droit de vote en février 1918, mais l'égalité des droits politiques avec les hommes n'est obtenue qu'en 1928. B. Renforcer l'unité nationale. 1. La mobilisation culturelle. La propagande tente de construire et de consolider le consensus national. Les causes du combat sont quotidiennement rappelées aux civils, les chefs héroïsés. L'ennemi est stigmatisé, diabolisé même, puisque de fausses légendes circulent sur son compte. Les Allemands couperaient ainsi les mains des petites filles. La mobilisation culturelle passe par différents supports de propagande. Affiches, cartes postales, livres, cinémas d'actualité, mais également par les objets du quotidien comme la vaisselle ou les jouets d'enfants. Les enfants sont incités à faire des efforts à la hauteur des sacrifices des soldats. Une culture de guerre patriotique semble ainsi se développer pour permettre aux soldats comme aux civils de tenir et supporter l'état de guerre. 2. Ferveur guerrière. Les formes de patriotisme et de consentement à la guerre sont toutefois variables. La guerre a pu susciter une véritable ferveur. Des intellectuels s'engagent, comme le poète anglais Wilfred Owen, qui y laisse la vie. D'autres, comme Einstein ou le mouvement Dada, combattent au contraire cet enthousiasme. La guerre a pu également être vécue comme une lutte morale, un conflit de civilisation. Mais en semblant devenir interminable, elle nourrit la défiance. Les soldats dénoncent le bourrage de crâne. La propagande se heurte enfin à des formes de résistance, de refus de guerre et de pacifisme, manifestations, désertions, même si cela reste minoritaire. C. Des sociétés transformées par la guerre. 1. Des tensions internes. La guerre et les discours de guerre exacerbent également les tensions et les rancœurs. Les soldats dénoncent les embusqués, ceux qui échappent au combat. Un discours se développe qui stigmatise les lâches, caricaturés en bourgeois efféminés, par opposition aux poilus. Et si la guerre a contribué à unifier les nations, accélérant par exemple en France l'usage de la langue française, elle ravive également des fractures. Les soldats du Midi deviennent ainsi la cible, dès août 1914, d'une rumeur sur leur prétendue lâcheté. Alors que l'Irlande est sous domination anglaise, plus de 200 000 Irlandais servent dans l'armée britannique. Mais cette participation divise les nationalistes. En 1916, un soulèvement est déclenché le lundi de Pâques. 1600 insurgés s'emparent de bâtiments dans le centre de Dublin et proclament l'indépendance de la République irlandaise. Écrasés par les forces britanniques, les rebelles tiennent 6 jours avant de capituler. L'insurrection est un échec, mais ouvre la voie, à l'horizon de l'après-guerre, au triomphe d'un nationalisme irlandais revivifié et réorganisé. 2. Une brutalisation des sociétés. La Première Guerre mondiale demeure un champ très actif de la recherche historique. Pour l'historien George Elmos, elle constitue une rupture dans la perception de la guerre. En banalisant la destruction de masse, elle modifie le rapport des hommes à la mort. Les sociétés s'accoutumeraient ainsi aux violences physiques et psychologiques de la guerre, elles seraient brutalisées. Cette notion de brutalisation permettrait de comprendre le maintien de formes de violence dans l'après-guerre, notamment en Allemagne, putsch, assassinats, combats de rue, etc., voire l'arrivée au pouvoir des nazis. Cependant, pour d'autres pays dont la France, cette analyse semble moins pertinente, car on ne retrouve pas ce climat de violence politique dans les années 1920 qui voit plutôt le pacifisme se développer.